certaines personnes ont des peurs ou des phobies. Et une peur qui est assez courante, c'est la peur de ne pas se réveiller à temps. Je sais, quand j'étais plus jeune, étudiant, souvent, je veillais tard. Et j'essayais de construire des systèmes pour me réveiller le matin. Je me souviens, j'avais un gros réveil mécanique qui devait réveiller tout le couloir quand j'étais à la CTU. Mais ce que je faisais, je le mettais dans une assiette métallique avec des pièces et des billes en métal pour faire plus de bruit. Arriver en retard à un cours, c'est pas trop grave. Mais je me souviens, c'est une histoire, la sœur de Nancy. Il ne s'était pas réveillé le jour de l'examen du concours d'infirmière. Et quand j'avais entendu ça, je n'en croyais pas mes oreilles. Pour une heure de retard, elle avait pris un retard d'un an dans ses études. Dormir, ça peut être dangereux. Mais c'est encore plus dangereux spirituellement. Et c'est ce que nous allons voir avec l'église de Sardes aujourd'hui. Lisons ensemble les versets 1 à 6, je lis dans la version à la colombe. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles. Je connais tes œuvres. Tu as le renom d'être vivant, mais tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui allait mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Garde-la et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras point à quelle heure je viendrai te surprendre. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Ainsi, le vainqueur se vêtira de vêtements blancs. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. L'ange de l'église de Sardes, nous avons répété que c'était soit l'ange qui est responsable de l'église de façon surnaturelle, ou plus probablement le responsable, le messager, celui qui annonce la bonne nouvelle dans l'église, le responsable, le pasteur, on dirait aujourd'hui. On a vu que à chaque fois le nom de l'église, le nom de la ville de l'église avait un sens, était en accord avec le sens du message. Et le mot de Sardes, ça désigne ceux qui restent. Remain. Souvent dans la Bible, il est question d'un reste, le reste d'Israël. Et malgré toutes les mauvaises choses qu'on va voir sur Sardes, on va voir qu'il y a toujours un petit reste.
And
une constante qu'on retrouve dans cet enseignement, qui montre que dans chaque église, chaque dénomination, il y a des vrais chrétiens qui aiment le Seigneur et qui veulent lui plaire par leur vie. Sardes, c'était la capitale de l'ancien royaume de Lydie. C'était un grand carrefour économique. Il y avait l'industrie des textiles, des teintures, aussi des bijoux. Et on peut dire que c'était une des villes à l'époque les plus importantes du monde antique. Ça, c'était bien avant l'époque où Jésus s'adresse à l'église de cette ville. C'était une ville construite sur un plateau, un haut plateau de 500 mètres. Et autour de la ville, il y avait le fleuve qui s'appelait le Pactole, qui avait creusé sur les trois côtés une gorge profonde. C'était une espèce de méandre. Ce qui fait qu'on pouvait y accéder que par un chemin, et encore un chemin assez raide. J'ai parlé du mot pactole. Maintenant, en français, c'est peut-être un mot qu'on utilise encore un peu, c'est un mot qui veut dire une source abondante de richesse. Par exemple, on peut dire que les taxes sur les carburants sont un pactole pour le gouvernement français. Et cela parce que la rivière Pactole charriait des paillettes d'or. Et aujourd'hui, on dit il est riche comme Bill Gates. Mes parents disaient ils sont riches comme Rockefeller. L'expression plus traditionnelle, c'était il est riche comme Crésus. En fait, Crésus, c'était le roi de la ville de Sardes. Donc, c'est une ville qui avait une riche histoire, on peut le dire. Mais cette ville, fut conquise deux fois dans son histoire par les Perses avec le roi Cyrus au 6e siècle avant Jésus-Christ. Puis Alexandre le Grand, 4 siècles avant Jésus-Christ. Et on raconte que dans les deux fois, les envahisseurs avaient envahi la ville du côté le plus facile. En fait, c'était pas le plus facile a priori, mais ils avaient remarqué que les gens montaient et descendaient par des petits sentiers. Mais leur problème, c'est qu'ils se croyaient en sécurité sur les trois côtés. Et donc, ils ne mettaient pas de garde sur ces côtés. Nous allons voir que ça, c'est un danger spirituel. On peut se sentir en sécurité parce qu'on a accepté le Seigneur Jésus dans son cœur. Le 16 février Au début, on était plein de zèle pour le Seigneur. Puis petit à petit, on s'assoupit. On n'est plus sur nos gardes. Et l'ennemi peut nous faire tomber très facilement. Jésus se décrit ici, on se souvient, il y a toujours une description de Jésus, comme celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles. Le chiffre 7, c'est le chiffre de la plénitude de ce qui est complet. Avoir les sept esprits pour Jésus, ça veut dire qu'il a la totalité de l'Esprit Saint. Il y a aussi un passage dans Ésaïe 11, versets 1 et 2, qui décrit l'Esprit comme étant l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit de sagesse, l'Esprit d'intelligence, l'Esprit de conseil, de vaillance, de connaissance et de crainte de l'Éternel. Sept aspects de l'Esprit. Les sept étoiles, on a vu, c'était les responsables des églises. Et si Jésus se présente comme celui qui a la plénitude de l'Esprit Saint en lui, c'est pour montrer à cette église que c'est ce qui lui manque le plus. La présence de l'Esprit Saint en leur sein. Il est là aussi pour leur dire qu'il peut leur donner l'Esprit Saint. La Bible nous rappelle sans cesse les mots de Zacharie 4, 6. Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais par mon esprit, déclare l'Éternel des armées. Les psaumes nous disent que si ce n'est pas le Seigneur qui construit la maison, alors ceux qui travaillent, travaillent en vain. Et c'est notre prière que la présence de l'Esprit Saint soit réelle parmi nous. On pourrait avoir tout l'argent de Bill Gates. On pourrait avoir tous les territoires du gouvernement français. Les territoires. On pourrait nous donner toutes les anciennes cathédrales. Tout ça ne servirait de rien, absolument de rien, si l'Esprit Saint n'était pas partie prenante. Et là, visiblement, l'Esprit Saint n'était plus dans l'Église. Normalement, dans chacune des lettres, on a vu que le troisième élément, après la description de la ville et la description de Jésus, c'était les compliments. Et ici, il n'y a aucun compliment adressé à l'église de Sardes en tant qu'église. Par contre, Jésus leur fait le reproche suivant, « Je connais tes œuvres. Tu as le renom d'être vivant, mais tu es mort. » Vous vous souvenez, dans les autres lettres, on a vu qu'il y avait des hérésies, des dangers d'hérésie ou des dangers de persécution.
danger of intellectual pollution.
Persecution. Il y a deux dangers, les attaques de l'intérieur par la fausse doctrine qui se développe. Les attaques venant de l'extérieur, les persécutions. Ici, c'est le coma profond. Pas d'attaque de l'intérieur ou de l'extérieur. Il n'y a pas d'hérésie parce que les gens ne s'intéressent pas à la doctrine, à ce qu'ils croient. C'est ce qu'on appelle le prêt-à-penser. Leur doctrine est peut-être juste, mais c'est par hasard. Ou le fait qu'au départ, elle était juste et elle est restée, mais elle n'a plus de pouvoir. Il n'y a pas de persécution parce qu'ils ne menacent personne. Une église qui est devenue un club social, on peut jouer aux échecs, on pourrait faire des réunions pour faire du tricot, on peut faire des repas, on peut se retrouver pour faire des déménagements. Et toutes ces choses n'ont, bien sûr, je plaisante, n'ont rien de mauvais en soi. Mais s'il n'y a pas une dimension spirituelle, alors elles sont en vain. Pasteur Nick, qui sera là la semaine prochaine, Dieu voulant. Aime répéter que lorsque l'on devient sérieux vis-à-vis du Seigneur, le diable devient sérieux à notre égard. Jésus disait, malheur à vous lorsque tous les hommes disent du bien de vous. Une église vivante, une église vibrante est toujours soumise à des attaques. Et là, Jésus fait une différence entre ce qui peut être la réputation et ce qui peut être la réalité des choses. Vous vous souvenez, lorsque le Seigneur cherchait, avait confié à Samuel de trouver un roi pour Israël, du moins pour remplacer le premier roi qui n'était pas digne de ce poste, Saül. Le prophète avait regardé les enfants d'Ésaïe comment on dit en français, c'est pas Isaïe, voilà, oui. En anglais, d'accord. Jesse en anglais. Et il se disait, oh, celui-là c'est un beau spécimen, il est grand, il a l'air costaud, ça doit être lui. Et en fait, le Seigneur lui disait, non, c'est pas lui. Et il essayait un autre, et finalement il disait, ah, mais il reste ce petit là, le jeune. Dieu avait dit à Samuel, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Le problème, c'est que nous voyons l'extérieur. Nous ne voyons pas les choses intérieures. Mais la réalité qui intéresse Dieu, c'est celle du cœur. Et la question que Dieu nous adresse à tous, je crois, c'est est-ce que je soigne plus ma réputation?
Et la question que Dieu nous adresse à tous, je crois, c'est est-ce que je soigne plus ma réputation?
que la réalité de mon caractère devant Dieu. Est-ce que je cherche plus à impressionner les autres qu'à être réel avec Dieu? Et c'est ce qu'il dit, il dit, ils avaient le renom d'être vivants. Et pourtant c'était une église morte. Et ça c'est une contradiction dans les termes. Une église morte, c'est quelque chose de... C'est terrible. Parce qu'une église, c'est Jésus-Christ. Jésus qui est le chemin, la vérité, la vie. Il est ressuscité, vivant, tout puissant. Il n'est plus crucifié. Et ce n'est pas un ressuscité anémique. Et pourtant, beaucoup de groupes d'églises qui se réclament de lui sont mortes. Dans le nord de l'Europe, où le christianisme était devenu une religion d'État, il y a encore de grandes églises qui peuvent accueillir près de 5000 personnes. Pourtant, le dimanche, il n'y a peut-être que 40 personnes qui s'y réunissent. Et on sait que Jésus, ça l'horripile, ça l'énerve, ça le met en colère. C'est la seule chose qui le mettait en colère, c'était l'hypocrisie. Il disait, vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors. Mais qui au-dedans sont pleins d'ossements et de morts de toute espèce d'impureté. Vous de même au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au-dedans vous êtes remplis d'hypocrisie et d'iniquité. Qu'est-ce qu'il en est dans ma vie? Je me dis chrétien, mais quelles sont les iniquités, les horreurs, les impuretés que je garde à l'intérieur? Heureusement, le Seigneur n'en reste pas là, il donne des mesures correctives. Il dit, sois vigilant et affermis le reste qui allait mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole, garde-la et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras point à quelle heure je viendrai te surprendre. Sois vigilant, ça leur rappelait l'histoire de leur cité. Eux, la cité qui se sentait en sécurité alors qu'elle ne l'était pas. Il leur demande de se rappeler comment ils avaient reçu la parole. Ils l'avaient reçu avec joie, par l'Esprit. Mais ils s'étaient assoupis. Vous connaissez l'expérience de la grenouille qu'on met dans de l'eau chaude? Si on la met dans, vivante dans de l'eau bouillante, j'ai pas fait l'expérience personnellement, je veux pas que Sébastien la fasse. Mais on me dit que la grenouille arrive à marcher sur l'eau et sortir de l'eau en sautant de toutes ses forces. Alors que si l'on met la grenouille dans de l'eau froide et qu'on fait chauffer lentement l'eau, alors elle commence à se trouver à l'aise, c'est un bon bain chaud. Bientôt elle suffoque. Suffocate. Et ça, c'est le danger que le Seigneur souligne. Il faut des fois un bon choc. Une épreuve. Un encouragement du Seigneur. Mais il y a toujours cette attitude de veille. Et là, il encourage le pasteur à... Il lui demande en fait d'encourager ceux qui veulent aller plus loin avec le Seigneur. Il lui dit, il y a un petit groupe dans l'église là, qui veut servir le Seigneur, alors encourage-les, affermis-les. Nous sommes tous à des étapes différentes de notre relation avec le Seigneur. Mais il est bon que ceux qui veulent aller de l'avant puissent le faire dans l'église. C'est pour ça que l'on offre des réunions. C'est aussi en fonction de vos disponibilités. Mais si vous avez quelque chose sur le cœur, ne le gardez pas pour vous seul. Partagez-le avec des frères, avec le pasteur, avec l'église. C'est ensemble qu'on va de l'avant. Sinon, il dit, il viendra comme un voleur, c'est-à-dire comme par surprise. Et c'est jamais drôle de se réveiller le matin et de voir qu'on a été cambriolé la nuit. Et quand on pense aux églises, au mouvement d'église, quelqu'un dit que souvent elle démarre par une action du Saint-Esprit. Qui trouve un homme vraiment consacré à Dieu. Mais que la plupart du temps, les hommes étant ce qu'ils sont, il y a quatre phases. Il y a un homme, un mouvement, les choses grandissent, prospèrent dans le Seigneur. Et puis il n'y a plus de vapeur, l'Esprit Saint n'est plus là. Pas que l'Esprit Saint soit simplement une force, bien entendu, c'est une personne. Mais le système devient comme une grosse machine. Il continue à marcher un peu par routine, par les efforts humains. Et la dernière phase, c'est la phase du monument. Visité par les touristes. Notre-Dame de Paris, je crois, doit recevoir plus de touristes que de fidèles.
many more truer than faithful followers.
Encore une fois, Jésus remarque qu'il y a toujours quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Verset 4. Et il leur dit que ces hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements, donc ils sont restés fidèles au Seigneur, ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Là aussi, l'industrie de la... Ils faisaient des vêtements en laine blanc à Sardes, et là, le Seigneur utilise quelque chose qui parle à cette population. Marcher avec Jésus, c'est, je dirais que c'est ça vraiment le paradis. Être en sa présence, dans son intimité. Vous souvenez que l'Éternel se promenait dans la fraîcheur du soir dans le jardin d'Éden. Et s'ils sont en vêtements blancs, c'est pas parce que ils ont été chez le teinturier, non, c'est parce qu'ils ont reçu la justice qui vient de Jésus-Christ. Se sont confiés à Jésus comme à leur sauveur et à leur maître. Donc, trois choses. Il faut se rappeler. Rappelle-toi comment tu as reçu et entendu la parole. Pour ensuite obéir. Encore une fois, on a dit que c'est très dangereux si on a l'habitude d'écouter d'une oreille et de ne pas faire ce que nous dit la parole. Mais le Seigneur nous dit de nous repentir. Et merci Seigneur pour la repentance. Cette semaine encore, le Seigneur m'a montré la pourriture de mon cœur. Il m'a montré combien je pouvais être coléreux. Comment mes motifs n'étaient bien souvent pas des motifs d'amour. Encore une fois, il nous offre le repentir. Et qu'il est bon de pouvoir se repentir. Se repentir, on l'a dit, je le répète, ça veut dire changer de direction. Il y a d'abord cette première repentance fondamentale. Qui consiste à réaliser que notre vie nous éloigne de Dieu. Et à un moment donné, le Seigneur nous interpelle. Il nous dit de revenir à lui. De faire demi-tour. Seattle, il y avait pas longtemps encore, il y avait des autoroutes. Mais il n'y a pas besoin d'aller si loin. La voie rapide en ce moment, qui s'arrête brutalement. Et si on continue sur sur cette route, c'est l'accident, la mort probablement garantie. Là, il y a une façon de sortir vers Magnan. Mais le Seigneur nous dit que la seule solution, c'est de faire demi-tour et de revenir vers lui. Ça, c'est la grande repentance. Si vous n'avez jamais fait, c'est très important que vous le fassiez aujourd'hui même. Mais il y a une repentance qui est une repentance de tous les instants. Voir que ma vie ne peut pas plaire à Dieu, ce que je viens de faire est mal, est mauvais, ne lui rend pas gloire. Et lui demander pardon. Souvent, ça, c'est pas trop difficile. Dans mon cas, du moins. Ce qui est plus difficile, c'est de demander pardon à quelqu'un d'autre. Et ça aussi, c'est la repentance. Et j'ai remarqué qu'une bonne chose, c'est quand on prend l'habitude d'aller demander pardon aux gens pour le mal qu'on leur a fait, je sais que c'est sans doute encore mon orgueil, c'est pas quelque chose d'agréable à faire. Et je déteste avoir le faire. Et la bonne chose, c'est que ça me conduit à me contrôler peut-être davantage. Il n'empêche que lorsque nous péchons, Dieu est là pour nous pardonner si nous nous repentons, si nous venons à lui. Finalement, la promesse au vainqueur, verset 5. Le vainqueur se vêtira de vêtements blancs, je n'effacerai pas son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Qu'est-ce que le livre de vie ? Encore une fois, on est à la fin de la Bible dans l'Apocalypse et il faut une connaissance de tout ce qui précède. Et dès le livre de l'Exode, on entend parler Moïse qui dit à l'Éternel de ne pas punir les Israélites qui ont commis l'idolâtrie. Et il est prêt à. Il dit au Seigneur, efface-moi de ton livre que tu as écrit. Mais l'Éternel répond, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. David, qui pouvait être très violent contre ses ennemis, dans un psaume 69, disait qu'il soit effacé du livre de vie et qu'il ne soit pas inscrit avec les justes. Jésus nous disait aux apôtres, il nous dit, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais de ce que votre nom est inscrit dans le livre de vie. Paul disait dans Philippiens, parlant de ses compagnons, leur nom est inscrit dans le livre de vie. On verra en arrivant à l'Apocalypse 20, pourquoi c'est si important d'être inscrit dans le livre de vie. Parce qu'il y est dit que quiconque ne fut pas trouvé dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu.
Those whose names are not found in the book of life will be
The lake of fire. Le fait qu'il dise qu'il n'effacera pas le nom du livre de vie, ça peut nous conduire à penser, est-ce qu'on peut perdre son salut? On a déjà parlé de ce sujet, on a vu différents passages et je crois qu'il est très important de voir qu'on peut être assuré de notre salut. Et une façon de voir le livre de vie, c'est peut-être pas un livre où le Seigneur inscrit notre nom lorsque nous l'acceptons. Mais c'est la liste de tous ceux qui sont morts pour lesquels Jésus est mort. C'est-à-dire de toute l'humanité. Et il est donné à chaque homme à un moment donné de prendre une décision vis-à-vis de Jésus. Et ceux qui refusent Jésus, leur nom serait effacé. C'est pas une certitude, mais c'est une façon d'essayer de réconcilier quelques versets. Et nous savons que celui qui a le Fils de Dieu a la vie. Jean 5, 13 nous dit, Jean nous disait, je vous ai écrit cette lettre afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. L'assurance du salut. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Ouvrons nos yeux, ouvrons nos oreilles. La semaine dernière, on avait parlé de l'église de Thyatire. Et nous avons vu qu'elle pouvait représenter l'histoire de l'Église catholique romaine, qui sera présente jusqu'à au retour du Seigneur. Aujourd'hui, cette Église de Sardes, c'est historiquement, c'est l'Église issue de la Réforme, l'Église protestante issue de la Réforme. En gros, de 1500 à 1750. Et nous savons qu'il y a eu des grands hommes de Dieu, comme Luther, Calvin, Knox, Wycliffe, qui sont revenus à la vérité de l'Écriture. Des grandes vérités chrétiennes avaient été oubliées dans les premiers siècles. L'inspiration de la Bible, le fait qu'on n'avait pas besoin des écrits des papes, le salut par la foi seulement. Et ces églises avaient donné une vitalité, ces hommes avaient donné une vitalité à un mouvement. Mais là encore une fois, les églises s'étaient petit à petit endormies. Elles étaient devenues des églises d'État, finissant de ne plus avoir aucune influence sur la société qui les entoure.
having absolutely no influence on the society that surrounds them.
Aujourd'hui aux États-Unis, il y a des sondages qui ont montré qu'en en considérant toutes les grandes dénominations protestantes, plus de 70% des pasteurs ne croient pas que Jésus est né d'une vierge. Soit 75% ne croient pas à l'enfer. 80% ne pensent pas que la Bible dans son intégralité soit la parole de Dieu. Là encore, on se dit, mais pourquoi est-ce qu'ils s'appellent des églises? Donc, ça s'appelait le club du jeudi. Mais ne pas représenter Jésus et sa parole. La réforme avait fait faire des progrès au christianisme de l'époque. Mais elle n'avait peut-être pas été assez loin. Elle n'avait pas enseigné la doctrine des dons du Saint-Esprit, de la nécessité de l'activité de l'Esprit-Saint pour faire vivre l'Église. Elle n'enseignait pas le retour de Jésus-Christ. Résultat maintenant, ces mouvements sont infiltrés par le matérialisme, le relativisme en matière de morale. Et ces églises sont pourtant actives. Mais il n'y a plus de référence à Jésus, à la puissance de l'Esprit-Saint. Un verset très important dans Matthieu 22-29. Jésus s'adressait aux Sadducéens, cette secte qui ne croyait pas aux choses surnaturelles, à la résurrection notamment. Et il leur dit ces mots, verset 29, « Vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. » Là encore, ces deux choses sont essentielles. Connaître d'une part la parole, et d'autre part, ne dépendre que de l'Esprit-Saint pour la construction de l'Église. Des églises qui peuvent être très fortes dans l'enseignement de l'Écriture, mais qui ne croient pas au don de l'Esprit-Saint, à la puissance de Dieu. Et là, on peut avoir une orthodoxie morte. La doctrine est juste, mais il n'y a pas de vie. On trouve l'excès inverse. Des églises où on néglige l'enseignement de la parole. Où on ne fait que parler du Saint-Esprit. Des miracles. Des dons. Et là encore, il y a une bonne chose. Mais il manque la parole pour faire l'équilibre. Vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. En France, la situation du grand public est complètement influencé par ces choses. Il y a une petite église évangélique issue du mouvement de protestants. Mais il suffit de voir les kiosques à journaux régulièrement pour vendre des magazines. On ressort un titre qui sur des choses spirituelles. Et les gens mettent plus d'importance à ce que dit Paris Match sur Dieu. Qu'à ce que dit la parole de Dieu. Et il y a quelques années, j'avais noté un entretien dans Paris Match avec l'auteur d'un livre le livre s'appelait Jésus. Et voilà quelques extraits de ce qu'il racontait. Il disait, rien ne dit que Marie était vierge, mais sa grandeur n'est pas là, c'est d'avoir éduqué un petit garçon aussi extraordinaire. Yeah, what a wonderful little boy. Il n'avait rien compris à l'importance de la conception de Jésus par le Saint-Esprit pour ne pas hériter de notre péché d'homme. Parlant du miracle de la multiplication des pains, pour lui il n'y avait pas de miracle. Il y avait juste trois possibilités. Il y avait d'abord Madame Chouza. Apparemment, c'était la femme de l'intendant d'Hérode qui aurait organisé une distribution. Ou alors, après les gens avaient amené des provisions, chacun pour soi. Mais après avoir entendu les paroles de Jésus, ça leur avait convaincu de péché, ils avaient décidé de partager. Ou une autre hypothèse, il y avait des marchands qui étaient venus, puis devant les paroles de Dieu, ils avaient décidé de faire une distribution gratuite. Toutes les hypothèses sont envisagées sauf celle du miracle. Il dit plus loin, Jésus n'est pas venu s'offrir en sacrifice comme on le dit à la messe, il ne cherche pas la mort, il l'accepte comme une mission à haut risque. Et finalement, il dit que Jésus n'est pas mort pour le rachat de nos péchés. Nous sommes entourés par un monde qui ne croit pas aux Écritures ni à la puissance de Dieu. Je crois que s'il est si important pour nous de nous retrouver, de prier, d'avoir des réunions, d'agir ensemble. C'est parce que le faire aiguise le faire. Iron sharpens iron. Et que quand l'un d'entre nous commence à s'assoupir, l'autre peut lui donner un coup de coude. Et je me souviens lorsque nous étions dans les années au début 89-90 au Canada, au nord de Calgary, il faisait très froid l'hiver, beaucoup de neige. Il y avait des nuits incroyables. Les nuits où on pouvait voir les aurores boréales. Si vous avez déjà vu des aurores boréales, les trucs de Michel Jarre, comment il s'appelle ? Jean-Michel Jarre, c'est d'une beauté. On voit le ciel et les étoiles qui s'embrasent avec des couleurs de comme des flashs de couleurs allant du blanc au rouge en passant par le vert et le jaune. Et la règle, c'était que quand on en voyait une, on allait réveiller les voisins. Ils étaient fâchés si on ne les réveillait pas. De même, nous soyons fâchés si on ne nous réveille pas lorsque nous nous assoupissons. Alors que nous pouvons voir la magnificence de Jésus-Christ. Sa puissance. Son plan pour la ville de Nice. Pour la France, pour l'Europe, pour le monde. Je terminerai avec le verset de Paul aux Thessaloniciens 5:6. Ouais. 1 Thessaloniciens 5:6. Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Amen. Prions. Seigneur, il est facile d'entendre parler d'une église du premier siècle. Ou même des églises issues de la Réforme. Et de se dire que quel dommage. Comment ont-ils pu faire cela? Mais Seigneur, aujourd'hui tu veux nous interpeller. Parce que c'est nous qui sommes en danger de nous assoupir, Seigneur. Seigneur, tu nous dis de veiller. Apprends-nous, Seigneur, à veiller. Seigneur, apprends-nous à être redevable envers des frères et des sœurs de notre démarche chrétienne. Apprends-nous à connaître, à comprendre et à réaliser les Écritures et ta puissance, Seigneur. Merci, Seigneur. Par le nom de Jésus, nous prions. Amen. Je vais demander à Tonio de chanter « Réveillez ». Réveille-nous, Seigneur. Si tu peux.
une bonne semaine. N'oubliez pas de souhaiter un bon anniversaire à vous.